Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC de retour. Paddock RMC que tu retrouves sur toutes les plateformes de téléchargement. On voulait vous remercier parce qu'on sort d'un mois de mars assez exceptionnel pour le paddock RMC en termes de chiffres. Donc continuez à communiquer avec nous, à interagir via la page paddock RMC sur Instagram, la page Formule 1 de la RMC. C'est la page Formule 1 de RMC, pardon. C'est là hein, que vous pouvez échanger avec nous sur les différents formats qu'on vous propose. Et puis voilà, le paddock qui se remet dedans parce que la saison va reprendre dans quelques jours. Désormais, il y a plein d'actu. Il y a notamment une deuxième réunion là qui s'est tenue pour essayer de faire évoluer potentiellement le règlement et améliorer le produit de cette nouvelle réglementation 2026. On va en parler avec nos ingénieurs. Il y a un départ d'un ingénieur historique chez un concurrent. Et puis, il y a aussi des petites réactions du boss de la FIA sur les propos de Max Verstappen. Bref, on sent que ce mois de trêve a permis de clarifier certaines choses, ou en tout cas de faire le point sur certaines déclarations du début de saison. Les amis, les ingénieurs du paddock sont avec nous, avec notre team principal, Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Oui, salut mon Nico, bonjour à tous. Bah tu vois, la F1 avait besoin de recharger les batteries, pas nous, voilà.
Ouais, c'est vrai, mais nous on n'a jamais besoin de recharger les batteries.
Mais non.
Parce que toi, t'as jamais eu de batterie. Toi, c'est un moteur, un vrai.
Un Méduse.
Tu vois.
Juste pour démarrer.
Méduse. Voilà. Alex Calier et Louis Gerbier sont avec nous. Salut les amis.
Aïe, ça va?
Salut tout le monde.
Salut jeunes gens.
Bah écoutez, ça va très bien. Tout de suite les gars, on se plonge dans l'actu de la Formule 1. C'est parti. Avant de se lancer dans ce podcast, les amis, tiens, on a un petit cadeau à vous faire gagner. Cadeau exceptionnel. On a un bouquin, un livre de Jérémy Satis qui s'appelle « Programmé pour gagner ». Dedans, vous avez une préface d'Isaac Hadjar. Vous avez également la fin du livre qui est écrite par Pierre Gasly. Ça parle de la saison 2026. Il y a une couverture qui est assez superbe avec les pilotes qui sont en mode un peu bande dessinée, des portraits de pilotes très bien faits. Franchement, si vous aimez la Formule 1, vous allez vous régaler. Pour jouer, c'est très simple. Vous allez sur le compte Instagram, là, Paddock RMC. Il y a toutes les modalités pour jouer et vous serez tiré au sort. On vous le conseille, on l'a reçu à la rédac et nous, on s'est régalé avec notre prod Kylian Verhoeven. Donc, vous foncez. L'actu de la Formule 1 en ce lundi 20 avril, c'est la deuxième réunion qui est prévue aujourd'hui. Deuxième moment d'échange entre toutes les entités qui composent et qui font la Formule 1, la FIA, les pilotes, les écuries pour essayer d'améliorer un petit peu ce qui ne va pas sur ce début de saison. Bien évidemment, dans le viseur, les qualifications, puisque je pense que c'est ce qui fait vraiment l'unanimité, hein, les séances de qualification. Même les écuries et les équipes qui gagnent ont dit que le format était nul, pour le dire un peu grossièrement. Donc on attend peut-être des mouvements à ce niveau-là. Mon Jean-Luc, toi, est-ce que tu penses que ces fameuses réunions là qui ont été mises en place sur le mois d'avril vont accoucher de quelque chose d'intéressant, peut-être même des Miami, où c'est beaucoup de communication et que beaucoup de vent et qu'il n'y aura pas grand-chose à en ressortir?
Écoute, mon Nico, je me suis déjà un peu mouillé et je crois que j'hésite entre la montagne qui accouche d'une souris ou le cataplasme sur une jambe de bois, si tu vois ce que je veux dire. Si on avait écouté les pilotes dès effectivement les premiers tests sérieux au simulateur, etc., les premiers essais, où tous disaient, à mots feutrés, en se retenant un petit peu, en disant non, ça change complètement la manière de piloter. Moi, je me rappelle d'une déclaration d'Esteban Ocon qui avait dit il faut oublier tout ce qu'on a appris en termes de pilotage depuis le karting. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que au-delà du débat sur on aime, on n'aime pas, ça produit des dépassements, enfin, encore une fois, je préfère parler de changement de position parce que c'est la réalité. Après, ça fait du spectacle ou ça n'en fait pas. Peu importe. Pour moi, ce qui est dramatique, c'est qu'on est en train de changer les règles du jeu. C'est-à-dire ce qui était un sport magnifique, le pinacle du sport automobile, c'est en train de devenir autre chose, c'est-à-dire un sport de gestionnaire et même plus géré par les pilotes, géré par des ordinateurs, géré par des ingénieurs. Et c'est ça qui me choque profondément. Alors, effectivement, il y a des réunions, on écoute. Bon, on a dans le rôle de Monsignor, et ça lui va très bien, on a Dominicali. Alors lui, il pourrait siéger à la Curie, à Rome, hein, dans le genre de déclaration ampoulée qui ne veut rien dire. J'ai lu toutes ces déclarations, ça ne veut rien dire. Lui, il est là pour mettre évidemment un petit peu d'huile dans les rouages. Et il a osé dire aux pilotes, non mais écoutez, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes tous célèbres et riches grâce à la Formule 1, vous n'avez pas le droit de la critiquer, c'est invraisemblable. Enfin, c'est un discours qui est pour moi insensé et ça démontre bien que la seule motivation de ces gens-là, c'est le pognon.
Ouais. Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu des prises de parole assez fortes. Toto Wolff, notamment, le directeur de Mercedes, Alex, qui a rencontré les médias et qui a clairement dit qu'il fallait du changement, clairement, pour améliorer ce produit-là. Alors que Mercedes est l'équipe qui domine, que tu peux te dire que quand tu domines et qu'avec tous les millions en jeu, bah, tu as plutôt intérêt à la fermer et à valider ce qui fait ta force depuis le début de la saison. Même Toto Wolff pour le coup se mouille un peu et dit qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un vrai sujet sur la table et que peut-être que la réunion du jour peut faire bouger les choses.
En fait, le sujet a pris beaucoup plus d'ampleur au moment du crash de Berman, où c'était la faute à cette réglementation qui manquait d'assises en termes de sécurité. Pour ce qui est de Toto Wolff, alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais il faut aussi penser plus large, dans le sens où la Formule 1, c'est bien sûr 11 écuries maintenant qui se battent entre elles, mais elles sont dans un sport qui est fermé. Ce sport qui est fermé, il réussit parce que toutes les écuries, la FIA et la Formule 1 elles-mêmes, coopèrent pour faire un sport qui est viable sur 5, 10, 15 ans. C'est pour ça que notamment nous avons les accords Concorde qui régissent justement la manière dont la Formule 1 va s'élever sur les prochaines décennies. Maintenant, si tout le monde n'est pas d'accord, si on a par-ci par-là, par exemple, Verstappen qui se montre très critique sur la Formule 1 à juste titre par rapport à sa vision du sport auto, de l'autre côté, on peut avoir un Russell qui dit « Ah, mais moi, je vais bien », un Gasly qui dit qu'il n'a jamais eu une voiture aussi performante de toute sa carrière. Bah, en fait, on a des avis qui sont éparpillés, mais pas éparpillés du « Ah, c'est un peu bien » ou « C'est un peu moins bien », c'est soit c'est très bien, soit c'est dégueulasse. Donc, ouais. dans la finalité de ce que dit Toto Wolff, c'est compréhensible parce que on doit avoir une Formule 1 qui est unis pour ainsi s'élever et trouver des solutions. Cette nouvelle réglementation, elle n'est pas parfaite. Ce n'est pas parce que Toto Wolff et Mercedes s'imposent que l'on va avoir justement une Formule 1 qui est parfaite aux yeux de Mercedes. Non, c'est que si tout le monde n'est pas d'accord, et même l'écurie qui est gagnante aujourd'hui en Formule 1, à savoir Mercedes, le sport mourra parce qu'on n'aura pas justement une unité sacrée, on va dire ça ainsi, dans la réglementation. Et ça a été comme ça sur les précédentes réglementations parce que tout le monde était d'accord sur un principe d'aller vers l'avant, on va dire ça ainsi. Et Toto Wolff, c'est justement la situation en tant que telle. C'est que lui, il conçoit très bien que même s'il gagne, il va gagner dans un sport qui ne va pas aller dans la bonne direction aux yeux des fans, mais également aux yeux surtout de toutes les écuries.
Bon, lui, il dit que les discussions sont plutôt constructives. Il a cette phrase, Toto Wolff, il dit « Il faut agir avec un scalpel et non avec une batte de baseball ». Donc, bien évidemment, il faut pas faire machine arrière et tout effacer. Toi, Louis, si tu as des choses que tu as envie de voir là, des Miami, ce serait quoi? J'imagine que quand même, les qualifs, on a envie de voir autre chose en tant que passionné de sport automobile. Parce qu'on le disait, le format, il est quand même... C'est quand même un peu dégueulasse là, de regarder une séance de qualif depuis le début de saison.
Ouais, c'est bien résumé. Oui, je pense que c'est l'urgence, parce que comme dit Jean-Luc, compliqué de faire une révolution en un mois. On parle de choses tellement complexes, avec une inertie énorme en fait. Donc pour du changement, va falloir aussi être patient. Donc oui, Miami, moi je ne m'attends pas à grand-chose. S'ils arrivent à trouver quelques artifices pour rendre des qualifs qui ressemblent à des qualifs, avec des pilotes qui disent « Ah bah là, quand je suis allé plus fort, je suis allé plus vite en gros », ça serait un peu le mieux que j'espère. Mais moi, j'espère pas grand-chose. Hein. Pour moi, je pense que ouais, le scalpel, il va être tout petit, ou voire en mousse.
Bah, en fait, tu peux pas changer une réglementation
qui a mis
3 ans à se construire. Ouais, tu peux pas la changer en l'espace de 2 petites semaines.
C'est impossible déjà, juste au niveau du temps, au niveau de... Même si tout le monde se dit « Tiens, on est autour de la table, allez, là, c'est plus possible, on y va. » Mais même ça...
Qu'est-ce qu'on fait ?
Ça va accoucher de...
Ouais, ça va être des mesures cosmétiques.
Ça n'accoucherait que dans plusieurs mois, ou alors, comme dit Jean-Luc, voilà, on va toucher des trucs. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va être vendu comme une révolution, la chose qui va sauver la saison. En fait, ça sera 2-3 petits machins. Voilà, moi, je ne m'attends pas à grand-chose du tout. Voilà, qu'ils essayent de nous sauver les qualifs. Et puis après, on va attendre mars prochain pour peut-être espérer, mais encore que. Hein.
Le seul point qui peut véritablement évoluer, c'est sur la dépendance électrique, c'est-à-dire de passer en partir du 50-50 et redescendre à du 40 si on veut rester dans la, je veux dire, l'essence même de cette réglementation.
C'est la logique, Alex. Hein. C'est une hérésie d'avoir fait ça.
Bah, en fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'en qualification, on est obligé de lever le pied avec le super clipping et ainsi de suite. Je fais beaucoup le comparatif par rapport à la Formule E. La Formule E, en séance de qualification, tu ne lèves pas le pied. Tu vas à fond du début jusqu'à la fin. C'est extrêmement paradoxal. Alors c'est que paradoxe. La Formule E a été créée pour justement être une discipline de gestion.
À suivre. En tout cas, bien évidemment, toutes les infos là qui tombent là de cette possible réunion, s'il y a des choses qui fuitent sur notre page Instagram, et puis on en parlera dans le prochain podcast lundi prochain. Les amis, autre actu là qui a agité le paddock pendant cette trêve, c'est le départ d'un des ingénieurs les plus mythiques de la Formule 1 pour McLaren, Gianpiero Lambiadze, le compère, le coéquipier, l'homme à tout faire de Max Verstappen qui quitte Red Bull et qui va chez McLaren. Andrea Stella a même parlé aux médias en disant que c'était la cerise sur le gâteau, cette arrivée de Lambiadze. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Luc ? Il y a plusieurs interprétations possibles. Est-ce que ça veut dire que le projet Red Bull prend moins d'ampleur et que des stars de chez Red Bull quittent le navire? Est-ce que ça veut dire que Max Verstappen, surtout, a vraiment envie de se barrer et possiblement on pourrait le retrouver chez McLaren? Ou est-ce que c'est juste un projet perso de Lambiadze qui avait envie de voir autre chose, hein? Ça peut exister aussi, cette solution.
Je crois que c'est la dernière option, mon Nico, puisque Max Verstappen s'est longuement exprimé également, hein, sans langue de bois, comme d'habitude. Bien sûr, tu l'as dit, c'est son compère, c'est son complice, c'est son ingénieur attitré depuis ses débuts en Formule 1. Et même si, comme ils le disent, et c'est ça qui est formidable, parfois ils se parlent durement dans le feu de l'action, notamment quand ils ne sont pas d'accord. Mais ça ne fait rien, il n'en reste rien après. C'est un petit peu, ça va te plaire, mon Nico, comme au rugby, tu sais. On se met des grosses peignées sur le terrain et quand on sort, on va voir un coup ensemble. Et puis voilà. Ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une complicité formidable. Ils se comprennent même, j'allais dire, à demi-mot. Et ils ont donc construit, bâti ce palmarès. C'est ça, Verstappen n'est jamais le dernier à rendre hommage à Lambiadze. Alors, effectivement, là, il avait pris du galon également chez Red Bull. Et puis, il a dû recevoir une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. C'est exactement ce que Verstappen a dit. Il a dit, il m'en a parlé avant, il m'a consulté. Et je lui ai dit, joue ta carte, joue ta carrière. Moi, d'abord, il a dû être honnête jusqu'au bout en lui disant, moi, je ne sais pas ce que je deviendrai en 2028 et même peut-être un peu avant. Donc, oui, ça peut vouloir dire qu'effectivement, ça peut inciter Verstappen éventuellement à écouter une offre de McLaren si elle vient. J'y crois pas trop. Hein. Personnellement, non. Je pense que Verstappen, où il ira, probablement, s'il quitte Red Bull, ce serait pour aller chez Mercedes. On le sait très bien, puisqu'encore une fois, Toto Wolff lui fait un chèque en blanc, mais ça fait deux ou trois saisons. Donc voilà, où il quittera donc la Formule 1, et ce serait une perte irréparable, puisque c'est qu'il ne trouverait plus en Formule 1 les raisons de satisfaire sa passion du sport automobile. Ouais. Et ça, encore une fois, pour moi, ce serait vraiment un symptôme et un critère terrible, parce que j'ai réfléchi aussi dans l'histoire, est-ce qu'il y a eu des cas comme cela, indépendamment des résultats, et j'insiste lourdement, qu'un pilote s'arrête, mais à 28 ans, c'est quand même très, très tôt.
Akinen, il était parti à quel âge ?
Excuse-moi ?
Akinen, il était parti à quel âge ?
Akinen ?
Alors, Akinen, non, il était plus âgé. Hein. Beaucoup plus âgé, oui. Akinen, écoute, je ne voudrais pas dire de bêtises, après, il a fait une carrière en DTM, il a dû partir à 34 ou 35 ans, à peu près. Hein. Ça doit être ça, puisqu'il a mis fin à sa carrière, il avait 39 ans, après les années de DTM. Donc, moi, je dirais 34-35 pour Akinen.
La fameuse prise d'année sabbatique, quoi.
Okay, Akinen, il gagnait encore des courses en 2001. Bon, je vais vous dire ça, mais en tout cas, oui. Lambiadze, en tout cas, il a récupéré, Alex, un poste de directeur des opérations de course chez McLaren. Il a un peu upgradé quand même. Hein. C'était une offre qu'il pouvait pas refuser. Jean-Luc nous l'a dit. Pour toi, c'est quoi? C'est projet perso? Ou ça veut dire que... Bah, parce que c'est quand même le troisième cadre majeur qui quitte Red Bull, hein, quand même. Hein.
Bah, en fait, pour moi, c'est... Alors oui, je suis d'accord avec Jean-Luc, c'est un départ personnel. C'est peut-être même indépendamment de ce qui se passe du côté de chez Red Bull. Mais si on regarde un peu plus largement, c'est surtout un peu le symbole d'un empire qui est en train de s'effondrer du côté de chez Red Bull. Dans le sens, on parle d'ingénieur qui a fait gagner Verstappen, 4 titres mondiaux. Il est son ingénieur depuis 2016, si je ne me trompe pas. Ingénieur pour Max Verstappen dans sa carrière. Mais c'est quand même le symbole d'un exode qu'il y a du côté de chez Red Bull. Alors, voulu et pas voulu pour certains, hein, le départ d'Adrian Newey, qui a été un peu forcé à partir par justement Christian Horner. Horner lui-même viré en pleine saison 2025. Marco qui est parti aussi. Jonathan Whitley qui est parti chez Audi pour finalement revenir en Angleterre du côté de chez Aston Martin très certainement. Il y a Will Courtney aussi qui est parti, qui était le stratège du côté de chez Red Bull, qui est parti chez McLaren justement. Et maintenant, on a Lambiasé qui part chez McLaren. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que McLaren est en train de faire un petit démantèlement du côté de chez Red Bull parce qu'on a eu le départ de Marshall, Courtney, Lambiasé. C'est quand même trois piliers, j'ai envie de dire tête pensante assez chirurgicale du côté de chez Red Bull. Et puis de l'autre côté, moi, je suis pas finalement très d'accord avec Jean-Luc sur la question de Verstappen du côté de chez McLaren. Il y a quand même un point qui peut être mis en avant par Zak Brown, c'est quand même Le Mans. On rappelle que McLaren revient aux 24 heures du Mans, mais cette fois-ci dans la catégorie hypercar, et que ça peut être un projet intéressant pour Verstappen, qui a toujours dit publiquement qu'il avait envie de faire les 24 heures du Mans. Et là, en particulier, il y a cette catégorie hypercar qui est la catégorie reine.
Ça peut être un argument de poids pour attirer Verstappen en F1 avec ce projet Le Mans.
Ouais, je suis totalement d'accord avec ça, et je comprends l'idée que Mercedes a toujours été là. Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que McLaren reste un argument de poids sur la question du Mans.
Ouais, à suivre. Louis, moi je sais pas, mais je trouve que quand même, tu vois, je suis un peu gossip, moi, vous comprenez, maintenant, en écoutant les paddocks. et les couples un petit peu ingénieur-pilote, tu sais, quand ça se sépare, ça me fait mal au cœur, Louis. Tu sais, il y a un truc
ça,
un peu historique.
Ça, c'est ton cœur tendre.
Le Hamilton et Bono, c'était dur, ça.
Hamilton-Bono, je vais te dire mieux. Il y en a même certains, ils avaient mal vécu le départ de Angela, c'est ça?
Angela,
sa physio.
Ah, sa physio.
Exactement. Oui. Tu te rappelles, il y avait une séparation. On se disait, oh là là, ça va plus, ils ont dû s'engueuler. C'est pas forcément ce que je préfère dans la Formule 1, mais bon, t'as raison, Nico, ça en fait partie, et c'est toujours marrant d'analyser ça comme ça. Moi, je pense que il y a une offre terrible, et puis c'est. C'est aussi en fait un peu, comment dire, le chemin classique de l'évolution en F1. Le mec qui est talentueux à un poste N dans une écurie, il va aller dans une autre à un poste N plus 1, et c'est comme ça qu'il monte. Et c'est comme ça qu'on a vu Mekies être numéro 2 chez Ferrari, passer numéro 1 chez la petite sœur de Red Bull. Et puis ensuite, moi j'y vois une certaine logique. Le gars, il est finalement entre guillemets 4 fois champion du monde aussi, lui aussi. Hein. Il n'était pas dans la voiture, mais il était quand même celui qui était au plus proche de Verstappen pendant ces titres-là. Donc il a un CV à revendre, et apparemment il l'a bien revendu, donc tant mieux pour lui. Et Verstappen, il peut aussi, tu vois, un moment quand Hamilton, on entendait parler de Ferrari, on se disait, Bono, c'est sûr, il va peut-être, finalement non, il est resté. Donc je pense aussi que
pas de logique.
Il y a pas forcément de logique, comme on se souvient aussi de celui de Lando Norris qui était parti faire de l'Indy. Et pareil, il en était en pleurs dans la voiture au moment de se quitter, Lando et tout, en mode on se verra plus, machin et tout. Bon bah finalement, il en a trouvé un autre et il est devenu champion du monde. Donc je pense aussi que... Mais bon, quand même, être italien, c'est cool parce que Gianpiero Lambiasé, c'est hyper stylé, alors que Jean-Pierre Lambiasé, ça aurait pas fait du tout...
C'est vrai que Jean-Pierre Lambiasé...
Gros off de McLaren pour Jean-Pierre Lambiasé.
Et juste un petit mot à propos de Jean-Pierre, si vous vous rappelez de si vous vous rappelez de son émotion lors des derniers Grands Prix de la saison dernière où Verstappen l'avait emporté et où il était vraiment inconsolable, il y a peut-être aussi quelques raisons personnelles dont par discrétion il ne parle pas, mais je pense que peut-être ça peut s'expliquer aussi.
Mais ceci ne nous regarde pas.
Ceci ne nous regarde pas. Les amis, merci beaucoup pour ce petit paddock avec un condensé de l'actu. Tiens, tout cas, je vous donne rendez-vous exceptionnellement jeudi. On va vous sortir un épisode bien spécial avec ce casting-là, avec la Dream Team là, du paddock RMC. On a une opposition, je vous en dis pas plus. Jean-Luc Roy, Alex Caldi.
Voilà.
Ça va être
et des juges, des juges très sévères.
Ah mais des juges d'une sévérité terrible. Ah, et pour info, Mika Häkkinen a pris sa retraite à 33 ans.
Et c'est bien ce que disait Alex. Hein, il est toujours en année sabbatique. Il a jamais repris.
Jamais revenu.
C'est 20, 25
Allez, ciao,
ans.
Les amis, on se retrouve jeudi. Bye.
Le paddock RMC.